L'émission de France Inter est sur franceinter.fr.
À l'occasion du Disquaire Day, France Inter et Le Move seront en direct de la Gaîté Lyrique à Paris, samedi 20 avril. Retrouvez le Pont des Artistes de 20h à 22h sur France Inter avec Girls in Hawaii, Christine and the Queens, Alex Baupin et Lilywood and the Prick. Et à partir de 22h sur Le Move, les concerts de Rubinsteiner et Wax Taylor. Renseignements sur franceinter.fr et lemove.fr.
France Inter, la voix est libre.
Et la voix est libre pour Daniel Mermet et son Là-bas si j'y suis. Allez hop.
Bonjour, il y a 64 ans naissait une petite fille qui 20 ans plus tard, avec sa voix et son sourire qu'on pouvait deviner derrière le micro, nous a enchantés pendant plus de 40 ans. Elle s'appelait Chris. Je préfère souhaiter les anniversaires de naissance. C'est Michel de Grenoble, c'était une amie.
Alors comme ça, BFM TV a consacré 58 minutes pour que ce pauvre Jérôme Cahuzac raconte comment il a été une malheureuse victime de la finance internationale. Dans un souci d'égalité dans la mode et d'objectivité, BFM TV va accorder le même temps à chacun des 470 employés licenciés de Petroplus, victimes eux aussi de la finance internationale. Petit calcul, 58 minutes par 470 égale 27 260 minutes égale 454 heures égale 18 jours. Eh bien, le programme de BFM TV, qui émet 24 heures sur 24, est bouclé jusqu'au 5 mai. Bon courage.
Il faut un mois à une star du football pour gagner ce que le plus riche de nos ministres a accumulé en une vie. Alors, suggérer qu'un millionnaire ne pourrait pas être de gauche parce qu'il est riche n'a pas de sens. Ou alors, comment expliquer ces millions de pauvres Français qui votent à droite? Ces millions de moutons qui, par servitude volontaire, vont livrer leur propre méchouille aux bouchers mafieux? Il va falloir s'habituer. Il existe donc quelques petits riches qui câlinent des millions de prolos. Et des millions de prolos qui votent en faveur de ceux qui ont intérêt à ce qu'il leur reste. Ah, prolo te choque? Ah, le mot te semble anachronique, désuet, décalé. Tu te sens au-dessus du prolo? Faux, mec. Celui qui tire ses moyens de subsistance de son travail et qui ne dispose que de ses enfants comme richesse est un prolo. Tu es, toi aussi qui nous écoutes, un prolo.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Daniel et merci pour nous avoir rediffusé ce formidable reportage sur les mineurs anglais pendant cette grève terrible qui a été... Et ensuite, ce redressement extraordinaire de ces gens. Et bon, voilà, quoi. Je suis encore ému d'avoir écouté ça. Et puis, que ça donne une petite leçon à nos politiques, enfin, ministres, Montebourg, etc., pour essayer de sauver ce qui est sauvable, quoi. Qu'on en ait un peu dans la culotte, qu'on vire cette saloperie de Mittal, et une bonne fois pour toutes, et qu'on nationalise partiellement. On a les meilleurs aciers du monde, et qu'on essaye aussi de trouver nos industries automobiles. Salut Daniel, merci pour tout. Et voilà, au revoir. C'était Jean-Paul Leysson.
Enfin, au milieu de toutes ces nouvelles affligeantes, une bonne nouvelle. Laurence Parisot écoute Là-bas si j'y suis. Et hier, elle a été bouleversée par l'émission sur les mineurs de Tower Colliery. Et aujourd'hui, elle s'insurge, elle voit les déclarations, je crois que c'est à cause de ça, là. De patrimoine et des ministres. Mais ils ne sont pas actionnaires, il faut être actionnaire. Il faut que tous les Français soient actionnaires. Ça a été la révélation hier, voilà. Sauf qu'elle n'a pas écouté tous les détails. C'est ceux qui bossent dans l'entreprise, normalement, qui sont actionnaires, quoi. Et puis c'est eux qui gèrent les actions, en fait, quoi. C'est eux qui gèrent le bénéfice, bon, mais... Non, mais quand même, c'est un progrès. Voilà, on va devenir tous actionnaires, parce qu'on critique les gens de droite, la finance et tout ça, ils sont contre le collectivisme. Pas du tout, ils sont collectivistes. Ah oui, non, ça c'est une erreur. Ils sont collectivistes, les gens de droite. Sauf que la collectivité, ça s'appelle l'entreprise. C'est tout, c'est que ça la différence. Mais ils sont collectivistes. Allez, tous au service de l'entreprise.
Oui, bon, bah c'est François, paysan dans l'Orme. Monsieur Hérault vient de parler à la radio ce matin. Alors, pas un mot sur Notre-Dame-des-Landes. Donc, on a évité les sujets qui fâchent. Comme dirait Sophia Aram, voilà.
Oui, bonjour, c'est Francis de Paris. Bon, alors à propos de Thatcher, moi je crois qu'il faut pas se tromper d'ennemi. La mort de Thatcher, moi je m'en fiche. Thatcher, ça fait 15 ou 20 ans qu'elle fait plus rien. L'ennemi, c'est pas Thatcher, c'est ses idées, et ses idées, elles sont toujours bien vivantes. Alors ceux qui dansent dans la rue quand Thatcher est morte, à mon avis, il y a des choses qu'ils ne voient pas, ou pas bien. Salut.
Bonjour à tous, c'est Laurence en Guadeloupe. Alors merci de parler de Maggie. Il se trouve que j'ai des amis de la Celtic Fringe, c'est-à-dire la France celtique, et je sais qu'ils apprécient encore aujourd'hui les drames et les dégâts de cette impossibilité d'alternative. Alors, courage, peut-être qu'on va pouvoir changer les choses.
Bonjour Monsieur Mermet, excusez-moi, je le traque total. Je suis écossais, j'ai quitté l'Écosse en 83, je crois. Margaret Thatcher m'a permis de manger à table avec ma famille autour de la bougie parce qu'on n'avait pas d'électricité. J'ai quitté l'Écosse car on me disait que j'avais aucun avenir. En venant en France, en croyant que c'était un pays socialiste grâce à M. Mitterrand, grosso modo. Merci énormément pour vos émissions, en tout cas. Grosse peace, ciao. I am an antichrister, I am an anarchist. Et sinon, il y avait the big girl in the red dress, she's just trying to impress us. Autrement, il y avait London calling to the faraway towns. Et pas de nostalgie, hein.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Goldthorpe. Goldthorpe, c'est une petite ville, un village, on peut dire, du Yorkshire. Et ici, c'est une région qui a été particulièrement touchée, frappée, dévastée par la politique de Margaret Thatcher. On est loin de Londres. On est loin de la cérémonie qui a eu lieu ce matin et à midi, entre Westminster et Saint-Paul, la grande célébration de la grande Maggie, la regrettée Maggie. Ici, c'est tout le contraire. C'est des funérailles aussi. Il y a une charrette tirée par un cheval. Sur cette charrette se trouve un cercueil. Et le cercueil va être brûlé sur un foyer de charbon fait avec des charbons brûlants. Pourquoi des charbons? Parce qu'ici, ben, c'est la mine. Et on va brûler, symboliquement évidemment, le cercueil de Margaret Thatcher en souvenir, un souvenir épouvantable, un souvenir de cauchemar, de la destruction complète de cette société. Ce n'est pas seulement la fermeture des mines, ce n'est pas seulement des centaines de milliers de mineurs qui s'en trouvent au chômage, c'est toute une société qui a été détruite, et on peut dire une classe sociale qui a été détruite et qui n'a pas oublié. On s'attendait à ce que ce soit gay, qu'on rigole. Il y a pas mal de gars qui sont là avec leur bière à la main, on est quand même dans le Yorkshire. Mais c'est grave, c'est très émotionnel. Et on a retrouvé, dans les archives de la base où j'y suis, un reportage qu'on avait fait pas très loin d'ici à Leeds, en 1998, sur une page très méconnue des Anglais eux-mêmes, de leur histoire sociale. Un moment d'une New Deal version travailliste, version anglaise dans les années 20, en lien avec le pouvoir de l'époque, celui de Tony Blair, qui ne faisait que continuer, que prolonger la politique imposée par Margaret Thatcher. Pour les gens qui sont ici, qui nous entourent, rien n'a changé depuis Margaret Thatcher. Elle n'est pas morte du tout, puisque sa politique continue. Cette région ici est toujours exsangue, toujours dévastée. Les enfants sont partis ici. Il y a pas mal de gens âgés autour de moi. Et on sent un certain désespoir. Je dis bien désespoir parce que personne ici ne voit vraiment comment retourner la situation, comment se sortir de cette situation. On a perdu, c'était une lutte de classe, c'était une guerre de classe. On l'a perdu, on est dans cette amertume, dans cette désolation. Et vous allez voir que dans ce reportage qu'on a retrouvé, tout ça a évidemment des échos profonds en Grande-Bretagne, mais aussi en France, sur le plan politique et social. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Non mais allô, je reviens du crayon. Devant l'illustre hôtel, une queue gigantesque formée par tous ceux qui postulent pour des achats pendant la vente aux enchères à venir. Mais qui sont-ils donc tous sur le macadam? Eh bien, nos hommes politiques étant tous des pauvres, c'est le riche peuple parisien.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour à toute l'équipe. Je vous appelle pour un rassemblement afin de tenter de sauvegarder, je dis bien tenter de sauvegarder, l'hôpital Hôtel-Dieu, au cœur de la capitale, rassemblement jeudi 18 avril à 13h, avec toutes les équipes soignantes qui seront disponibles et d'autres gens qui viendront de l'extérieur. Je suis membre de la coordination nationale hôpitaux-maternité de proximité. Je vous remercie.
Une simple réaction par rapport à la publication des revenus ou des patrimoines des élus, et surtout à leur réaction. Je crois que là, à un moment donné, ce qui me choque, c'est que pour eux, ils appellent voyeurisme le fait de mettre en avant leur patrimoine, mais est-ce qu'ils se sont mis déjà à la place de quelqu'un qui demande les minima sociaux? Est-ce qu'on exige d'eux? Ce qu'on exige des personnes qui vont demander une aide simplement pour manger, en termes de déballage d'affaires. Est-ce qu'ils se sont déjà mis à la place des personnes à qui on applique automatiquement des peines quand ils disent « Ah non, non, mais ça ne serait pas normal qu'il y ait des applications automatiques de peines parce qu'il y a de contravention à la loi de la part des élus ». Quand j'entends les élus nous dire que 99% des élus étant honnêtes, il serait anormal de légiférer par rapport aux 1%. Mais est-ce que c'est pas ce qu'ils font en permanence quand ils partent d'un fait divers, hein, et qu'ils mettent en place, que ce soit en termes de circulation ou à tous les niveaux, des peines, des lois restrictives, parce qu'il y a une personne, effectivement, qui contrevient à la loi, on met en place une peine qui concerne l'ensemble des personnes. Voilà, c'est tout. Mais merci quand même d'exister au niveau de votre émission. C'était un coup de gueule, je n'interviens pas souvent, mais là, je commence à en avoir un peu ras-le-bol.
Good evening, ladies and gentlemen! May I have your attention, please? I'm just here to tell you about New Deal and how it helped me get this job.
I would say it was to cut the amount of unemployment.
Mais bon, d'après moi, toute cette histoire, c'était parce qu'il y avait trop de chômeurs. Hein, donc, comme il y avait trop de chômeurs, bah, il fallait bien les occuper. Hein.
It really isn't the culture for ordinary, everyday, working class people to see any importance in their own histories.
Pour tous les monsieur tout le monde, les classes ouvrières, leur histoire personnelle n'a pas d'importance à leurs yeux.
À leurs propres yeux, ni aux yeux de personne.
Aujourd'hui, le Labour est le mouvement le plus largement populaire au service du progrès et de la justice.
Tony Blair.
Ce que nous avons toujours rêvé est en passe de devenir réalité. Nous ne sommes pas un parti destiné à servir une élite ou des intérêts sectoriels, mais le vrai parti du peuple.
Now, if you say to me, who solved this unemployment problem? Well, Adolf Hitler solved it, didn't he?
Si vous me demandez qui a résolu le problème du chômage, ben moi je vais vous le dire, c'est Adolf Hitler, c'est tout, hein, c'est lui qui a résolu le problème.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, anglais, si vous saviez.
Flight number 2, arriving from New York.
My eldest brother was sent to a camp.
Mon frère aîné a été envoyé dans un de ces camps.
They were on forestry work, and the Kielder Forest, which was eventually planted, was the largest man-made forest in Europe.
Il travaillait dans une forêt qui, en fait, se trouve être maintenant la plus grande forêt plantée par l'homme en Europe.
And the mass amount of work was done by what we termed slave labor, by the unemployed who were paid 4 shillings per week pocket money and their food instead of employing correct labor at correct trade union rates.
En fait, cette forêt a été plantée par des hommes qui ont été exploités comme des esclaves et qui étaient payés 4 shillings la semaine pour travailler comme des esclaves.
Aquarelle et porcelaine, paysage de la campagne anglaise en automne. Qui connaît l'histoire de cette forêt et des hommes qui l'ont plantée? esclave, entend-on. Travail forcé, travail obligatoire, STO, de lugubre mémoire. Anglais, si vous saviez. Aujourd'hui, une page d'histoire britannique que les Britanniques ignorent. Une page noire de l'histoire sociale que les Britanniques découvrent. Page refoulée, oubliée, effacée, totalement gommée des mémoires et même des archives, les camps de travail, Labour's Camp. En 1929, alors que le chômage se développait suite au krach de Wall Street, à la crise financière, le jeudi noir d'octobre 29, le gouvernement britannique créait des camps de travail, 25 camps de travail forcés, camps de redressement pour redresser ces parasites ramollis, avachis, qu'étaient les chômeurs, population dangereuse, comme on sait. 200 000 jeunes britanniques sont passés dans ces camps de 1929 à 1939, 10 ans. Et puis, amnésie collective, tout le monde semblait avoir enterré cette histoire jusqu'à ce que deux chercheurs, David College et Warren Lakin, ne publient leurs recherches et que le Sunday Times, dans son édition du 9 août dernier, ne révèle l'existence de ces camps secrets établis dans des campagnes isolées où les sans-emploi de longue durée qui étaient classés dans la catégorie « ont perdu la volonté de travailler » devaient se rendre de gré ou de force. 60 ans plus tard, évidemment, beaucoup de témoins ont disparu. Beaucoup de ceux qui restent refusent toujours de parler et nous en avons rencontré quelques-uns grâce à David College, cet historien et ce chercheur. Que faisait-on dans ces camps? Quelles étaient les conditions de travail, de salaire, etc. puisqu'on a parlé de véritables esclavages. Ce qu'on a voulu savoir avec Guy, on s'est rendu dans ces camps à partir de Leeds, au cœur même de la douce et belle Angleterre. Pourquoi autant d'intérêt aujourd'hui? Eh bien parce qu'à l'époque, en 1929, cette opération fut lancée par un gouvernement travailliste, le gouvernement d'un certain MacDonald. Aussi parce que cette opération fut baptisée, tenez-vous bien, New Deal. Non pas le New Deal de Roosevelt d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais New Deal 1929, chômage, New Deal. Et l'histoire était à ce point refoulée, oubliée, qu'aujourd'hui, enfin depuis le mois d'avril dernier, le gouvernement New Labour, travailliste, nouveau travailliste, disons, de Tony Blair, a lancé une vaste campagne pour encourager les chômeurs, surtout les jeunes, à accepter les jobs qu'on leur donne, a baptisé cette campagne comment? Eh ben oui, New Deal. Évidemment, ça ne va pas sans un certain malaise chez nos voisins d'outre-Manche. On va retrouver les témoins, les derniers témoins de cette histoire tout à fait oubliée et l'historien David College, français, anglais, si vous saviez.
Good evening, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? I'm just here to tell you about New Deal and how it helped me get this job.
Il y a une chose qui m'intrigue un peu, David. Pourquoi si peu de témoignages et pourquoi si tard?
I'll give you one example. When I spoke to Willie Eccles up in Scotland two or three months ago, after I finished interviewing him, and I was leaving his home, he said, it's a pity my friends won't come forward. And I said, what do you mean by that? And he knows at least four or five other men who live in the same community. Yeah.
Par exemple, il y a quelque temps encore, quand j'ai interviewé un des témoins de cette expérience en Écosse, et en partant, il m'a dit, quel dommage que mes amis ne viennent pas vous voir. Et j'ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il connaissait encore quatre personnes qui habitaient à côté et qui avaient vécu la même expérience.
And he'd already asked them to come forward to talk to me. The four of them said, we're trying to forget it.
Et il avait demandé à ses amis de venir témoigner aussi, de venir me parler, et les quatre ont répondu que c'était quelque chose qu'ils essayaient d'oublier.
It really isn't the culture for ordinary, everyday, working class people to see any importance in their own histories.
Pour tous les monsieur tout le monde, classe ouvrière,
Leur histoire personnelle n'a pas d'importance à leurs yeux.
À leurs propres yeux ni aux yeux de personne.
When I'm teaching adults history, when I'm working with adults in night classes and so on.
Quand je donne des cours d'histoire à des adultes,
I ask them to name members of our royal family.
Je leur demande souvent de nommer les membres de la famille royale.
And after 10 or 15 minutes, we have a considerable list on a board of kings, queens, princes and princesses, etc.
Et au bout de 10 à 15 minutes, on a toute une énorme liste sur le tableau de princes, de princesses, de rois et de reines.
And then I will say to them individually, what was the name of your grandmother's mother?
Et ensuite, je leur demande à chacun quel était le nom de la mère de votre grand-mère.
Or what was the trade of your father's father?
Et quel était le métier du père de ton père?
And most of them can't answer. And to that simple test is an actual revelation to them to see that they're not living their own history in our country, they're living other people's history.
Et ce simple test souvent fait une étincelle, un déclic chez eux pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne vivent pas leur propre histoire, ils vivent l'histoire des autres dans leur propre pays.
Et aujourd'hui, dans votre cours, David, dans le cours d'histoire que vous faites ici à Leeds, est-ce que vous utilisez ce travail que vous avez mené sur les camps de travail?
Yeah, absolutely.
Oui, absolument.
Simply because I never know whether somebody's going to turn around to me and say, oh, my dad was in one of those, or, you know.
D'abord, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va se tourner vers moi et dire, ah oui, mon père était dans ces camps.
But also to show how important pockets of our history get covered over.
Et aussi pour montrer comment des pans entiers de notre histoire sont oubliés.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me.
Et les gens du coin, les villageois des alentours, comment ils vous voyaient? Est-ce que vous avez eu des relations avec eux?
Well, I didn't see much of them, but because it was the only time you met them was when you were going for a pub drink and drinking a pub. But they did used to point you out. Children especially would run after you, wondering what were you? I mean,
on les voyait pas souvent, les gens du village. La seule fois où on les voyait, c'est quand on allait au pub. Mais je me souviens même les gamins quand ils nous voyaient, ils nous couraient après puis ils nous montraient du doigt.
La honte, le chômage, c'était la honte. Voilà ce que dit avec ses mots à lui John MacDonald. Curieusement, ce monsieur âgé s'appelle MacDonald lui aussi, et il est d'un dernier témoin de cette page noire de l'histoire britannique qu'a été l'histoire de ces camps de travail, ces Labour's Camp, entre 1929 et 1939. Une histoire honteuse, assurément, et refoulé des mémoires et aussi des archives, puisque les archives ont été brûlées, les fichiers ont été détruits, pense-t-on au début de la guerre, vers 1939. Et quel lien avec aujourd'hui, puisque je l'ai dit, ça s'appelait le New Deal, et qu'à nouveau, l'opération lancée par le gouvernement travailliste New Labour de Tony Blair s'appelle aussi New Deal, c'est peut-être la même conception, c'est-à-dire que la question du chômage ne se pose pas, ce qui se pose c'est la question du chômeur.
On s'occupe du chômeur, mais pas du chômage. Et qu'est-ce qu'on fait du chômeur ? Eh bien, à l'époque, c'était un personnage un peu menaçant, délinquant, un parasite, un avachi, en tous les cas, responsable et même coupable de son propre chômage, jusqu'à ce qu'il se voit lui-même comme un exclu, un refusé, et qu'il accepte ce refoulement. On connaît très bien comment fonctionne, au moins depuis Norbert Elias, puisqu'on est en Grande-Bretagne, cette machine à exclure, ce racisme sans race qu'est le racisme social. Ça fonctionnait à l'époque, et de façon sans doute atténuée, il faut reconnaître quand même l'effet des efforts et des luttes, mais c'est un peu la même mentalité. Alors on se promène avec David Collett, donc cet historien qui travaille là-dessus depuis 20 ans avec son collègue Warren Lekin. Ces deux hommes ont fait émerger cette histoire et cette mémoire. Et là, avec Give, on se balade à Lincolnshire, à côté de la ville de Lincoln, dans une campagne où, seul vraiment, mais alors vraiment seul, David sait qu'il y a eu, dans la forêt dans laquelle nous entrons, un camp, le camp de Bourne.
Well, this is it. This is the camp that was known as Bourne. In fact, we're about 9 miles outside Bourne.
Si on est au camp de Bourne. En fait, qui à vrai dire à 9 miles en dehors de Bourne.
And if you look around you, you will see that the rest of the landscape is open and flat, and you can see for miles and miles and miles. Behind me, where all these trees are, this is what the labour in the camp built. They planted these trees and everything. This wood behind me is 60 years old.
Alors vous voyez là autour de nous, on voit l'horizon loin, 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 c'est que des champs tout plats. Et juste derrière nous, de ces quelques arbres où se trouve le camp, bah c'est les membres du camp qui l'ont planté.
The main purpose, as far as the Ministry of Labour were originally concerned, was to actually put as many men to work on the land as possible after the First World War to replenish the tree stock that was used in the First World War.
Un des principaux objectifs, c'était de faire travailler autant d'hommes que possible dans les champs pour pouvoir replanter tout le réseau forestier qui avait été décimé pendant la Première Guerre mondiale.
Pour replanter les arbres qui avaient été massacrés pendant la Première Guerre mondiale.
And this is the reason why all the labor camps were actually set up, built on forestry commission land.
Et c'est pour ça que tous les camps de travail étaient sur des zones forestières.
Also, if you were to look on a map today, you will see that the spot we're standing on is quite isolated. We've just driven through a small village.
Si vous regardez sur la carte, vous verrez aussi que l'endroit où nous nous trouvons, cette forêt, est très isolée. On est passé par un village avant.
Yeah, but it's 60, 70 years ago.
Un faisant.
60, 70 years ago, that didn't even have a public house.
Mais il y a 60-70 ans, il n'y avait pas même une maison ici.
The nearest pub for the men to walk to on a Friday night was 9 miles away in Bourne.
Et le pub le plus près où pouvaient aller les hommes pour boire un verre le vendredi soir, c'est à 9 miles d'ici, à Bourne.
So you can see that if you came here, you were pretty well isolated, you were here to stay.
Et vous pouvez voir que si on venait ici, c'était vraiment pour être à l'écart, et on était vraiment isolés.
Oui, c'était vraiment pour... C'était une punition, c'était...
Oh, of course. There's no doubt about that at all.
Il n'y a aucun doute à ce sujet.
I'm absolutely certain that the idea of putting blokes in places like this, men in places like this, was partly to do with that whole attitude of seeing the unemployed as being responsible for their own situation.
Ah oui, j'en suis convaincu que le simple fait d'envoyer des hommes dans des endroits comme ici et dans des camps comme celui-ci, ça faisait partie d'un projet pour leur faire porter la responsabilité et la culpabilité de leur chômage.
L'objectif de ces camps était de durcir physiquement, de faire plier moralement le chômeur, jusqu'à ce qu'il, à l'issue de ce passage dans ces camps de travail forcé, eh bien, qu'il accepte les petits boulots qu'on voudrait bien
lui donner. Voilà un témoin de cette expérience, comme on dit en anglais. C'est le John McDonald dont je parlais tout à l'heure. Il a aujourd'hui 82 ans.
I was in the northeast in Middlesbrough.
À l'époque, j'étais à Middlesbrough, au nord-est.
And for employment in Middlesbrough, well, it was known as the Black North. Gives you an idea.
Pour le travail, là-bas, ça s'appelait le Nord Noir, juste pour vous donner une petite idée comment c'était.
Mm-hmm. When I left school at 14, I was the only chap in the street working, and that included a lot of families.
Quand j'avais 14 ans, que j'ai quitté l'école, j'étais le seul dans ma rue à travailler, et il y avait du monde. Hein.
Que faisait votre père, votre mère, votre famille?
Well, we were in iron foundries. I was apprentice moulder at the time. Well, I was more or less a glorified labourer.
On travaillait dans l'acier.
Vous aviez des frères et sœurs?
There was three brothers, three sisters.
J'avais trois frères et trois sœurs.
Et tout le monde vivait à la maison?
Oh yes, two bedrooms.
Ouais, ouais. Dans deux chambres.
Three lads in one room and three in the next room. My mother and father made do with a small box room affair.
Les garçons étaient tous dans une chambre, les trois filles dans l'autre chambre, et puis mon père et ma mère, bah, ils s'arrangeaient avec une petite chambre comme une armoire, quoi.
It's putting you off. By asking these sort of questions, you're living in a different world today. I mean, people died. The next door neighbour laid them out for the undertaker.
Non, mais il faut comprendre un truc, c'est que ici, maintenant, c'est complètement différent. À l'époque, s'il y avait un mort, eh ben, les voisins, ils nous aidaient pour enterrer. S'il y avait quelqu'un qui était enceinte, eh ben, la voisine, elle venait pour aider. Et c'était complètement différent à l'époque. On vivait tous ensemble et on s'entraidait.
Beaucoup de solidarité, grande solidarité à l'époque. Et est-ce que vous considérez comme un working class, quelqu'un de la working class?
Definitely.
Ouais, sans aucun doute.
Yes, I am.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous dites definitely? Qu'est-ce qui fait dire qu'on appartient à la classe ouvrière?
Well, surely, I mean, normal living tells you, I mean, there's the upper class and the lower class.
C'est la manière de vivre. Dans la vie, il y a les classes supérieures et les classes inférieures.
Est-ce que vous trouvez ça normal et moral qu'il y ait des classes hautes et des classes basses?
I don't know whether it's fair, but it's the only thing we're given, the only thing we can accept.
Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est ce qu'on a et puis il faut faire avec. Hein.
Est-ce que vous étiez intéressé par le syndicalisme, par les partis politiques?
Unions weren't allowed in a majority of places. They weren't very strong if they were allowed.
Les syndicats, ils étaient interdits à la plupart des endroits, et quand ils étaient autorisés, ils n'étaient pas très forts. Alors...
Malgré ça, il y a eu des mouvements de chômeurs en Grande-Bretagne à cette époque-là. Il y a eu le NUWM, le National Unemployed Workers Movement, qui s'est créé. Et un témoin de cette aventure syndicale et de cette résistance, c'est Len Edmerson, qui aujourd'hui à 86 ans.
After the 1914-18 war, there had been no planning by the governments to absorb the large number of unemployed that would be coming out of the factories which had been manufacturing armaments.
Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement n'avait rien prévu pour réinsérer les personnes qui avaient travaillé dans les entreprises d'armement.
So that very rapidly there was mass unemployment, and arising from that, the National Unemployed Workers Movement was established in 1920.
Donc c'est à cet effet que le mouvement national des travailleurs au chômage a été créé en 1920.
I still have my membership card of it.
J'ai toujours ma carte de membre.
Ça, c'est très touchant parce qu'il a amené son carnet avec tous les timbres de chaque année parce qu'il fallait cotiser à cette association pour les chômeurs, pour les droits des chômeurs. Et notre amie Laine a amené son carnet de l'époque depuis 1920. C'est très touchant, ça.
Well, the National Unemployed Workers Movement was established from the unemployed themselves. It was not established by any political parties.
Okay, le mouvement a été créé par les chômeurs eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec aucun parti politique.
Pourtant, on dit que vous étiez près du Parti communiste.
Well, the Communist Party and the Independent Labour Party both give support, full support to the National Unemployed Workers Movement.
Le Parti communiste et le Parti travailliste indépendant ont tous les deux soutenu notre mouvement.
But they did not establish it. It was established by the unemployed work people themselves.
Mais ils ne l'ont pas créé. Le mouvement a été créé par les chômeurs eux-mêmes.
Alors on verra comment ce mouvement, le NOWM, a organisé avec des syndicats à travers la Grande-Bretagne dans ces années-là, des marches de la faim, comment des émeutes et des soulèvements eurent lieu dans ces camps de travail. Je vous rappelle, 25 ans de travail et 200 000 Britanniques, jeunes Britanniques, qui, exclusivement des hommes d'ailleurs, qui y sont passés durant 10 ans, une page totalement oubliée de l'histoire sociale britannique. Alors comment ça se passait? Comment on vivait? Quel était le niveau de vie? Quelle était l'ambiance? Comment on était amené à partir vers ces camps de travail? Le témoignage de John MacDonald. Racontez-nous à quel moment vous êtes parti dans ce camp.
Well, I went to that camp in, I think it'd be 1936, I'm sure it would be. And I don't know for sure, naturally I'm 82, so I'm beginning to lose my marbles a bit.
je suis pas sûr, parce que bon, j'ai quand même 82 ans, hein, c'est plutôt jeune, hein, mais je crois que c'était en 36.
I know it was in the summer. I was in the labour exchange along with a friend, and he said, have you seen the notice on the wall? And the notice on the wall said that any volunteers would be sent to make...
Tout ce que je me souviens, c'est que c'était l'été, et puis j'ai vu une affiche qui disait que si on n'avait pas de travail, on pouvait aller construire des routes dans les forêts. Alors comme moi, j'avais pas de boulot, j'ai dit, bon, ouais, pourquoi pas.
I was rather surprised when I got there to find married men there. There weren't many as young as me. There was a fair spattering, but I found people who I'd known years older than myself, and yet they were there.
Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais quand même assez surpris parce que il y avait des hommes mariés et il y avait des personnes qui étaient aussi beaucoup plus vieux que moi.
And I would say it was to cut the amount of unemployment.
Mais bon, d'après moi, toute cette histoire, c'était parce qu'il y avait trop de chômeurs. Hein, donc, comme il y avait trop de chômeurs, bah, il fallait bien les occuper. Hein.
Now, if you say to me, who solved this unemployment problem? Well, Adolf Hitler solved it, didn't he?
Si vous me demandez qui a résolu le problème du chômage, bah, moi, je vais vous le dire, c'est Adolf Hitler, c'est tout. Hein, c'est lui qui a résolu le problème.
Comment ça?
Well, what I mean is, we're all out of work. The engineering works are all nobody's working. They've no orders, they've no money, people to run the firms. All of a sudden, the war breaks and there's a talk of the war. And once there was a talk of the war, they needed to start them up, get them going. And you were sent to jobs that you wouldn't have dreamt it was possible.
Il y avait pas de boulot. Il y avait pas de boulot. Il y avait pas de commandes. Il y avait pas d'argent. Puis d'un seul coup, on entend parler de cette guerre. Et hop, il y a la guerre et il y a du boulot. Il y a de l'argent. Il y a des commandes. Et ben voilà.
Hey.
I mean, where did all the airplanes come from all of a sudden overnight? Boats, ships. I mean, they were building ships, they were working night and day to build ships.
D'un seul coup, il fallait des avions, il fallait des bateaux, et hop, on travaillait tout le temps, nuit et jour, on travaillait pour fabriquer des bateaux et des avions.
Et oui, le réarmement en Grande-Bretagne a été une façon de sortir de cette crise économique, crise de l'emploi, crise sociale qui ravageait le pays. On le voit, John McDonald n'a pas de trop mauvais souvenirs. Il nous a dit qu'il était boxeur et que ça lui avait valu, il était un bon boxeur, un petit bonhomme comme ça, râblé, balèze, et ça lui avait valu des douceurs au cours de son séjour dans ces camps, et son expérience n'a pas été trop malheureuse. Voilà comment Len Edmerson, lui, 86 ans, je vous le rappelle, est membre de ce NOWM, ce mouvement des chômeurs créé en 1920, voit les choses.
I don't think that any of the unemployed were really wishful of going to these camps, but they were in danger of losing their benefit if they declined.
Je pense qu'aucun chômeur n'avait vraiment l'intention ou n'avait vraiment envie d'aller dans ces camps, mais s'il n'y allait pas, il se retrouvait sans aucune ressource.
So quite a number were going, and those who had no income at all said, well, we will get a few shillings pocket money and we will at least get our food.
Certaines personnes pensaient que, en fait, on pourrait très bien y aller parce qu'au moins on aura un peu d'argent et aussi un peu de nourriture.
On nous a dit qu'il y a eu des émeutes et des soulèvements dans certains de ces camps.
It wasn't, I'm not referring to a riot here, but to a strike. My brother was sent to a camp in County Durham, Hamsterley Camp, and when he arrived, the unemployed who were already there were complaining about the food, the poor quality of the food, and the lack of sufficient food.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon frère, qui a été envoyé dans un camp près de Durham, dans le nord de l'Angleterre, les personnes qui étaient, les chômeurs qui étaient dans ce camp, se sont plaintes tout de suite de la qualité de la nourriture, mais surtout de l'insuffisance de nourriture qu'on leur donnait.
So along with several others, he organized a stay and strike of the whole camp. They boarded them up the doors of the huts, stayed in their huts and refused to come out to work.
À cause de la qualité médiocre de la nourriture, mon frère a organisé une grève où ils se sont complètement cloîtrés dans les baraques et ont refusé d'en sortir.
They had of course taken the precaution first of all of taking food from the storeroom to store up in the huts while they were barricading.
Bien sûr, ils avaient pris la précaution de prendre de la nourriture avec eux pour pouvoir se cloîtrer dans la baraque et d'avoir bien sûr de la nourriture.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be.
Il y a eu des émeutes et des manifestations dans ces camps. Est-ce que ça a été le cas dans votre camp? Est-ce que à l'époque vous en aviez entendu parler?
No, there was nothing like that in the camp I was in.
Non, il n'y en avait pas dans le camp dans lequel j'étais.
No, because all we got threatened with, get on with your work. Any more of this slacking or not getting on with your work, you will be sent back to Glasgow and your benefit will be stopped.
Non, on avait trop peur parce qu'on savait que si on travaillait pas, eh ben on nous envoyait à Glasgow et on nous coupait nos aides.
Charles Ward, une autre mémoire de ces pages noires de l'histoire britannique. Lui, il est de Glasgow, il est écossais, et avec David College, donc ce chercheur, cet historien, il se souvient de son séjour dans l'un de ces camps, et qu'en était-il exactement des soulèvements, des émeutes et des manifs, la résistance à cette obligation d'aller dans ces camps véritablement de travail obligatoire et de redressement. David College.
Charles is absolutely right, because Charles was amongst the first intake in that camp, and it was a small camp in those days, in the early 30s.
Charles était l'un des premiers à entrer dans ce camp, qui était encore un tout petit camp au début des années 30.
And there would have been a small number of men whose role, apart from carrying out forestry work, would be to also build a bigger camp.
Ceux qui travaillaient avec Charles, la plupart d'entre eux travaillaient à couper le bois, mais il y en a une autre partie qui était affectée à travailler au camp pour agrandir le camp pour plus tard.
I would have been a rebel as well as these other young men were, but we didn't know what we were the first. We didn't know what was there. It's when we come back and spread the word, what's up there? You're going there, and that's what you're going to get.
Moi aussi, je voulais me révolter, mais le problème, c'est que moi, j'étais parmi les premiers, donc j'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait. Donc, quand on est revenu de ces camps et qu'on a commencé à en parler, la rumeur a commencé à s'étendre et on a commencé à parler de la violence du camp.
David,
Charles is correct because around about 34-35, which is some years, 3-4 years after Charles left the camp, it was operating at its full complement. And there was a sit-in strike then.
Ce qui s'est passé en 34 ou en 35 dans ce même camp, à peu près trois ans après que Charles y soit allé, c'est qu'il y avait en haut d'une colline un grand baraquement qu'on appelait la Big House, la grande maison. Et un jour, tous les ouvriers sont montés jusqu'à la grande maison et ont déconnecté tous les câbles électriques.
And the reason for this, that was part of an ongoing action.
Cela s'inscrivait dans une démarche générale de protestation des camps, puisque le jour auparavant, les ouvriers s'étaient enfermés dans leurs cabanes en refusant de travailler, protestant des conditions de travail et des conditions de nourriture. Et donc, c'était cette confrontation qu'ils ont provoquée avec la direction pour pouvoir obtenir ce qu'ils ont eu, une meilleure condition de travail et une meilleure rémunération.
David, d'après l'étude que vous avez faite, 200 000 personnes comme Charles, hommes, parce que c'était que des hommes, sont passées dans ces camps de travail entre 1929 et 1939.
It is incredible, but it's incredible in this. I think that just listening to Charles talk there, it's reminded me that what was going on in the camps was really a mirror image of what was going on in society generally.
C'est incroyable, en effet, mais ce que me rappelle ce que dit Charles, c'est que ce qui se passait dans les camps, en fait, n'était qu'un reflet de ce qui se passait dans la société en général.
Here you have 200 men living in Nissen huts and wooden huts or whatever, which would replicate their streets, because where Charles came from, it wasn't unusual for whole streets to be unemployed.
Là, dans le camp où vivait Charles, par exemple, il y avait 200 jeunes hommes qui étaient au chômage. Mais c'était exactement à l'image de sa propre rue, où c'était tout à fait fréquent d'avoir toute une rue avec des gens au chômage.
Good evening, ladies and gentlemen! May I have your attention, please? I'm just here to tell you about New Deal and how it helped me get this job.
Excuse me, can I have everybody's attention, please? My name's Michelle Stones. I'm currently working
spot publicitaire britannique.
For the New Deal.
Hello, my name is Sam.
1998.
I've prepared your vegetables for you today, and I hope you really enjoy them. Thanks to New Deal, I've been given the opportunity to become a chef, and that is something I've always wanted to do.
I found out what skills I'd got and matched that to a job.
And I hope that there are more employers out there willing to give someone like myself the opportunity to work. Thank you, and enjoy your meal.
To all you employers out there, you can get guys just like me. You just gotta do it.
La pub qu'on vient d'entendre tourne partout en Grande-Bretagne depuis quelques mois. Et la découverte de ces camps de travail entre 29 et 39, qui s'appelait le New Deal, jette quand même un certain malaise sur cette pub où une succession de jeunes gens viennent parler du New Deal et disent « J'ai eu la chance d'avoir un job, je travaille en ce moment chez Rolls-Royce grâce au New Deal, c'est moi qui vous ai préparé l'accompagnement de votre plat grâce au New Deal, etc. Merci le New Deal, merci Tony Blair. » C'est le programme du New Labour actuellement en Grande-Bretagne. Le rapprochement est quand même assez étonnant et pour ne pas dire tout à fait stupéfiant. Nous, on reste avec David et Charles Ward sur cette mémoire. Il reste, je vous le disais, peu de témoins. Aucun n'a en dessous de 80 ans, donc ça ne fait pas beaucoup, de moins en moins. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas parler, ceux qui ont toujours honte, un peu comme toute la Grande-Bretagne, de ces années des Labour Camps. David, quelles étaient au départ les intentions du gouvernement ? Un gouvernement travailliste qui décide de créer des camps de travail pour endurcir les travailleurs, les chômeurs qu'on considère comme ramollis. Quelle était l'intention ?
To transfer them either into other courses, training courses of 6 month duration, or into other work in the southern part of the country.
À l'origine, c'était soit pour après les aiguiller sur des stages de formation d'à peu près 6 mois pour apprendre d'autres travaux, ou bien les envoyer dans le sud de l'Angleterre, dans les zones industrielles très actives à l'époque.
Parce qu'il y avait une sorte de délocalisation à l'époque. Ce n'était pas une délocalisation au sens planétaire comme ces dernières années, mais c'était à l'intérieur du pays où les industries se déplaçaient du nord au sud. Et il fallait déplacer la main-d'œuvre du nord au sud. Et ça, c'était avant 1929. Et puis, 29, le crack de la bourse, et c'est l'effondrement. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe ?
Around about 32-33, because the camps were open to men from what were called the special areas.
Depressed areas,
that's it. That it was understood by the government that there were no jobs for these people to be transferred to.
Oui, à partir de 32-33, ces hommes qui venaient des régions de déclin industriel, comme on les appelait, le gouvernement a compris qu'il n'y aurait plus nulle part où les envoyer.
Il n'y avait plus de boulot pour personne.
So by 32-33, it was realized that it was impossible to promise men work after a period in a labor camp. And in 1934, the camps were opened up to anybody in the country who'd been long-term unemployed.
Donc à partir de 1932-1933, il est devenu clair qu'il était impossible de promettre un travail aux gens qui sortiraient des camps. Donc à partir de 1934, les camps ont été ouverts à quiconque était sans emploi.
And from that period onwards, they became a means to their own ends. There was nothing for people after their 3 months training. Just 3 months training, 3 months hard labor, that was it.
Et à partir de là, les camps sont devenus véritablement une fin en soi. Il n'y avait plus du tout de travail promis à l'issue de ces 3 mois. C'était 3 mois de travail acharné, point barre.
Donc ça avait un caractère évidemment disciplinaire. Il s'agissait de discréditer le chômeur aux yeux du reste de la société et à ses propres yeux.
I think that's always been the case in this country, and I think it's still the case today.
Je crois que ça a toujours été le cas dans ce pays, et c'est encore le cas aujourd'hui.
But the unemployment seems to be the problem of the unemployed.
Où le chômage est considéré comme étant le problème des chômeurs.
Good evening, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? I'm just here to tell you about New Deal and how it helped me get this job.
I would say it was to cut the amount of unemployment.
Mais bon, d'après moi, toute cette histoire, c'était parce qu'il y avait trop de chômeurs. Hein, donc, comme il y avait trop de chômeurs, bah, il fallait bien les occuper. Hein.
It is not, it really isn't the culture for ordinary, everyday, working class people to see any importance in their own histories.
Pour tous les monsieur tout le monde, les classes ouvrières, leur histoire personnelle n'a pas d'importance à leurs yeux.
à leurs propres yeux ni aux yeux de personne.
C'était Anglais si vous saviez, nouvelle version d'un reportage de Guy Vanctil, diffusé pour la première fois le 23 septembre 1998. Merci à tous, merci à Laurent Easy pour la traduction et merci à Bruno Carpentier qui était à la réalisation à l'époque. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, franceinter.fr à la rubrique programme, émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Alexandre Chenet. Lucie Hacoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission avec la complicité de Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. France Inter, partenaire de l'exposition Une passion française, la collection Marlène et Spencer Hayes, du 16 avril au 18 août au musée d'Orsay. Le musée rend hommage aux collectionneurs américains Marlène et Spencer Hayes, un ensemble exceptionnel du 19e siècle et du début du 20e, réunissant des œuvres majeures de Bonnard, Caillebotte, Mayol ou Modigliani, mais également des trésors plus secrets qui reviennent en France pour la première fois. Retrouvez l'exposition Une passion française, la collection Marlène et Spencer Hayes dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Et dans un instant sur France Inter, vous avez rendez-vous avec Carrefour de l'Odéon. Il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Dans le procès de l'A13 à Versailles, de 14 à 30 ans de prison ont été requis aujourd'hui contre les 9 jeunes hommes des Mureaux qui ont tabassé à mort Mohamed Laïdouni sous les yeux de sa famille en 2010. Quant à la femme qui a eu l'accident de voiture avec Mohamed Laïdouni et qui est donc à l'origine de la rixe mortelle, 3 ans de prison ont été requis contre elle. C'est dans une heure que les députés plancheront sur le texte sur le mariage homosexuel. Les Antilles ont déjà décidé de manifester à nouveau contre ce soir. Mais pour certains députés de l'UMP, la messe est dite. C'est l'avis de Philippe Gosselin qui affirme également que les incidents de ces derniers jours sont aussi le fait parfois de provocations policières, ce qui fut le cas selon lui encore hier soir, place des Invalides à Paris, où les forces de l'ordre ont évacué une centaine de personnes. La France va envoyer des experts en Chine pour essayer de comprendre le virus de la grippe aviaire H7N9 qui a déjà fait 16 morts là-bas. Paris répond ainsi à la demande de l'ONU, de l'OMS et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et de l'agriculture, la FAO. Les experts qui y partiront entre 5 et 10 sont issus du CIRAD, le Centre international en recherche agronomique pour le développement basé à Montpellier. Le nouveau procès d'Hosni Moubarak aura lieu le 11 mai prochain en Égypte. À l'origine, il devait avoir lieu mi-avril, mais le juge mis en cause pour l'acquittement de dignitaires du régime égyptien déchu dans un autre procès s'est récusé. Il a donc demandé que le dossier soit confié à un autre tribunal au Caire. La grande majorité des détenus palestiniens en Israël a refusé aujourd'hui de s'alimenter à l'occasion de la journée annuelle des prisonniers, journée qui est par ailleurs marquée par des manifestations de soutien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi manifesté à Ramallah, Naplouse ou encore Hébron et Gaza. Israël détient près de 4700 Palestiniens, essentiellement pour des motifs de sécurité. Un gendarme auxiliaire de 24 ans s'est suicidé cet après-midi dans les locaux de sa gendarmerie. Le drame s'est passé à Pierre-Latte dans la Drôme. Selon le parquet, on ne connaît pas les circonstances du drame. On ne sait pas plus s'il a utilisé ou non son arme de service. À Rennes, le cimetière Nord est depuis 3 semaines la cible de voleurs de métaux. Une centaine de tombes ont ainsi été pillées. Les voleurs se sont servis de pieds de biche pour décoller les objets scellés dans le granit. 4 plaintes ont été déposées par des familles, notamment la mairie de Rennes devrait suivre. Le parquet de Créteil a lui ouvert une enquête préliminaire sur la ville de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne. Elle est dirigée par l'ancien secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État, Henri Plagnol. Cette enquête concerne le marché de la communication de la ville. La brigade de répression de la délinquance économique enquête en fait sur des soupçons de favoritisme, de détournement de fonds et de prise illégale d'intérêts. C'est fini pour Armor Luxe. La police va changer de prestataire pour la confection de ses uniformes, 120 000 au total. Ils resteront toutefois made in France, promet la police, mais Armor Luxe a décidé de déposer un recours. Enfin, une centaine de salariés se sont rassemblés aujourd'hui devant le théâtre Marigny à Paris, près de l'Élysée. Employés majoritairement par des enseignes de bricolage, ils sont venus défendre le droit de travailler le dimanche. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Rendez-vous dans l'Indre pour des enregistrements en public aujourd'hui mercredi au Blanc à 18h30 et demain jeudi à Vatan également à 18h30. À très bientôt dans l'Indre.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je ne l'ai pas accablé.
Attends une seconde.
Cinéma.
C'est ça qui est intéressant dans le film.
Ça
il nous renvoie
ça
une image.
Ça m'avait échappé.
Théâtre.
Laissez-moi terminer, Jacques.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la voix est libre.
Allez, c'est à vous Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Hier, nous avons évoqué, bien sûr, le drame de Boston. On a passé des extraits de beaux enregistrements de l'Orchestre Symphonique de Boston dirigé par Charles Munch. Nous avons reçu un message par Internet de Anne Azema, qui est la directrice du Boston Camerata, donc un ensemble qu'on a déjà diffusé ici. Alors, elle nous remercie de penser à ces Bostoniens qui ont souffert et continuent de souffrir. Et puis, elle fait ce petit coucou et elle dit, voilà, la tradition française continue à Boston, puisque maintenant c'est moi qui dirige cette Boston Camerata et elle est française, Anne Azema. On va l'entendre chanter d'ailleurs parmi ses collègues dans un petit morceau de la Nueva España. C'est un disque qui a déjà quelques années, mais qui nous raconte ces musiciens, ces compositeurs venus d'Espagne pour aller vers le Nouveau Monde, vers l'Amérique latine. Et voici de Tomás de Torrejón y Velasco, ce joli soleil vagabond, ce beau soleil, comme vous voudrez. Donc chante sa gloire, mon garçon, avec plaisir et élégance, avec joie et contentement. Ça tombe bien, pour l'instant, il fait beau sur la France.
Oh, my God.
Ce beau soleil vagabond de Tomás de Torrejón y Velasco, avec joie et contentement, chante, chante, mon garçon. Tant que du monde il dort, les cimes jouit de ses rayons. Interprétation de l'ensemble Boston Camerata, et on a entendu Anne Azema, qui aujourd'hui est directrice de cet ensemble et qui nous a écrit hier de Boston pour nous remercier de nos pensées. Et on va continuer avec deux jeunes pianistes, deux jeunes virtuoses, Ismaël Marguin et Guillaume Bellhomme, qui jouent Schubert. Ils jouent admirablement, avec beaucoup d'énergie d'ailleurs, des pièces quelquefois fort peu connues. Bien sûr, il y a la fantaisie en fa mineur qui est célébrissime, et puis il y a cet allegro en la mineur que j'ai rarement vu au disque. Il s'intitule « Lebenstürme », c'est-à-dire « Les tempêtes de la vie ». Et effectivement, il y a du vrai Schubert dedans, une vraie énergie, une vraie angoisse, des moments de ravissement, des moments de douceur aussi.